Inter, le 6-9 du week-end.
À 8h moins le quart, la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour Rick, donc si j'ai bien compris, demain matin nous dormons une heure de moins.
Eh oui. On a moins de temps pour dormir.
Oui, ça ne m'arrange pas votre histoire.
Pour les matinaliers radio, ça ne nous arrange pas du tout même. Ce matin, Alain Baraton, Jupiter et l'Europe.
Alors soyez tranquille Eric, je ne parle pas de jardin, je parle bien de jardin.
Oui.
Jupiter, le dieu des dieux, a très envie de séduire la belle Europe, mais il ne sait comment s'y prendre. Après avoir longuement réfléchi, il a enfin une idée, celle de se transformer en taureau, un animal qui devrait, c'est une évidence, impressionner la princesse. Mais il y a un mais et il est de taille, la laine. Aussi,
pour ne pas être... On a un seul mot, la laine.
Oui, la laine, la laine, oui, la laine. Parce qu'il paraît, que Jupiter avait une haleine qui vous bloquait un bœuf à 20 pas. Alors imaginez un petit peu la situation. Aussi, quand il a pris ce corps d'animal, il a eu l'idée, eh bien, de croquer une flore de crocus. Ainsi, paraît-il, la laine va redevenir merveilleuse.
Par une belle journée de printemps, Europe cueille des fleurs.
Et oui, oui, elle est avec ses amis, Europe. Elle est heureuse. Et à peine a-t-elle vu Jupiter qu'elle en tombe follement amoureuse. Alors déjà, pour son physique athlétique, musclé et puissant, pour la beauté et la douceur de son pelage, qu'elle caresse d'ailleurs avec délectation, et pour le baiser qu'elle reçoit grâce à, justement à ce crocus, un baiser doux et acidulé.
Et sans attendre, elle grimpe sur son dos.
Et pas loin de ses parents, de sa famille, de ses amis, je ne sais pas s'ils se marièrent, mais ils eurent trois beaux garçons.
On va dire que Jupiter, c'est donc un dieu romain, et Zeus, un dieu grec.
Et lui aussi, eh bien lui aussi vénère les crocus. Une légende prétend que pour convaincre Héra de se donner à lui, Zeus confectionna un lit de crocus. Et là encore, le stratagème fonctionna. J'ai presque envie à Versailles de créer quelques massifs de crocus, voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Je vous en tiendrai compte.
Faites-vous plaisir.
L'an prochain. Une autre légende toujours à propos de crocus met en scène un jeune garçon amoureux de la nymphe, Smilax. Celle-ci, d'une beauté incroyable, ne voit pas le soupirant qui n'attend d'elle qu'un mot, qu'un geste, qu'un sourire. Il n'obtient rien que du mépris. Les dieux, témoins de son chagrin, décident alors de changer le garçon en crocus, ceci pour soulager sa peine.
Et en conclusion, un extrait de L'homme qui tua Liberty Valance, John Ford fait dire à son acteur une bien jolie réplique.
Si la légende est plus belle que la réalité, imprimée la légende, inutile d'en dire donc davantage sur le crocus.
Allez, c'est le conseil du jour là aussi. Vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Santiago, c'est son prénom, nous dit qu'il a un magnolia qui au printemps fleurit avant de produire ses feuilles, hein, c'est normal. Quel est notamment l'adjectif qui qualifie les variétés concernées?
Parlons un peu grec si vous le permettez. Protéros en grec signifierait premier. Anthos, fleur. Donc protéros, anthos, fleur avant feuille, donc c'est le terme...
On va reprendre depuis le début, on n'a rien compris. Ce sont les premières feuilles qui arrivent.
En fait, le terme qui désigne les végétaux qui produisent des fleurs avant l'apparition des feuilles, ce sont des plantes protérantes.
D'accord.
C'est plus clair peut-être. Bon. Vous avez raison.
Et c'est donc l'adjectif concerné.
Voilà. C'est un mot qui a pour une étymologie deux mots grecs, le premier signifiant premier, le second signifiant
Anthos,
fleur.
La fleur.
Mais effectivement, il y a quantité de fleurs qui fleurissent avant l'apparition des feuilles. Le forsythia, l'arbre de Judée, le polovnia, quelques azalées, ou encore le cognacier du Japon, donc ce n'est pas une exception. Les magnolias, mais pas tous les magnolias, mais certains effectivement produisent des fleurs sublimes. C'est le cas en ce moment des Soulangeana. Vous savez, ce sont des magnolias qui ont des fleurs le plus souvent roses et blanches et qui sont absolument merveilleuses.
Evelyne a plusieurs sagous, des sagous envahis de petits papillons bleus et blancs qui pondent au cœur des nouvelles pousses et qui donc mangent tout.
Alors on parle certainement du palmier sagoutier, qui est un palmier qui effectivement a la visite d'un papillon redoutable, Pesandisia archon. C'est une bestiole qui boulotte tout et qui fait des dégâts considérables. Quantité de techniques sont actuellement testées pour mettre un terme à l'infestation de ce parasite. Il y a une technique qui est devenue très répandue et que je critique, et il ne faut pas la mettre en action, c'est d'enduire le haut du stipe. Le stipe, c'est le tronc d'un palmier, de glu. Cela limiterait la prolifération des insectes, etc. Sauf que la glu, malheureusement, les oiseaux, on sait les dégâts qu'il y a quand ils mettent leurs petites pattes sur la glu, on risque de les piéger et de les tuer. Il y a donc une technique avec des nématodes. Les nématodes, ce sont des bestioles, ce sont des petits vers microscopiques qui sont redoutables parce que quand le papillon arrive, voire la larve du papillon, il pénètre dans le corps de l'insecte et le boulotte de l'intérieur. C'est cruel, j'en conviens, mais c'est diablement efficace. Suisse, l'INRA d'ailleurs, est en train de tester de manière, j'allais dire, importante ce genre de lutte. L'avantage également, c'est que lorsque le papillon est mort complètement dévoré, la bestiole ne survit pas, le nématode meurt lui aussi. Donc il n'y a pas de risque de propagation de ce système donc auxiliaire un peu partout. Voilà une technique et il existe aujourd'hui des possibilités d'acheter dans le commerce des petits nématodes pour lutter contre le, je redonne le nom, Pesandeisia archon, c'est donc la chenille du palmier.
Carole a trois peupliers âgés d'environ 35 ans. Ils ont déjà été étêtés, précise Carole. Ils sont aujourd'hui d'une hauteur d'environ 10 mètres. Certains nous disent, notamment des voisins, de les abattre car ils auraient atteint leur âge maximum. Qu'en pensez-vous, Alain Baraton ?
J'ai connu des arbres à Versailles qui étaient des peupliers qui avaient été plantés sous Napoléon. Ils étaient donc centenaires. Il est vrai que le peuplier, quand il atteint 60-70 ans, est pratiquement arrivé à terme. Mais soyons honnêtes, des peupliers hauts de 10 mètres, quel est le danger ? Il n'y en a pratiquement aucun.
Aude nous parle, a une question à vous poser à propos des insectes. Comment éradiquer un insecte qui mange les fleurs de ma lavande ?
Oh, c'est le chrysomèle du romarin. C'est une bestiole sublime. On dirait, dans le domaine des insectes, c'est un tuning. On dirait une coccinelle carénée, un peu plus grosse que la coccinelle. Il y a des reflets métalliques, gris, bleu, doré. C'est une bestiole superbe. Il suffit tout simplement de l'attraper à la main et de s'en défaire à la main. On ne doit plus mettre de produits pour tuer les insectes.
Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a dans la main ?
Ah bah on les met soit chez les voisins, soit on s'en débarrasse d'une
manière. Chez les voisins.
Soit on les aplatit brutalement sur, voilà. Enfin, il y a également une autre technique qui commence à être efficace. Je vous parlais de la glu tout à l'heure. Là, on peut peut-être laisser. Si vraiment il y a infestation, on met sur une feuille de la glu. On met cette feuille au pied de la lavande. On secoue la lavande. Les bestioles tombent sur la glu. Il n'y a plus qu'à retirer la feuille, à repartir avec les insectes qui sont collés
et
dessus.
On met la feuille chez le voisin,
voilà.
C'est ça.
Et on met la feuille chez le voisin, non, parce que les petits oiseaux pourraient mettre leurs papattes. J'en profite également pour rappeler que les mésanges bleus seraient à nouveau intéressés par les chrysomèles du jardin, donc c'est peut-être l'occasion d'encourager le retour de ces oiseaux. Et il y a une variété de guêpes également qui aiment boulotter les chrysomèles. Donc laissons la nature, je crois, se rééquilibrer et refaire le ménage. Je crois que la nature n'a pas besoin de nous.
Et faisons bien attention avec la glu.
C'est important.
Qu'utilisent les jardiniers, entre autres. Un dernier conseil, lecture, Alain Baraton.
Xavier Mathias, c'est une perle. La vie érotique de mon potager, c'est publié par Terre Vivante.
Qu'est-ce qu'on entend par une vie érotique du potager ?
C'est coquin, parce que les plantes ont des sacrées choses à nous raconter. En fait, c'est pas le potager, c'est pas un jardin, c'est un lupanard. Et Xavier Mathias, avec les mots intelligents.
Vous choquez notre invité.
Oui, non, mais pas du tout, au contraire.
Non, il sourit, il n'est pas du tout choqué.
Écoutez, le livre commence par une citation de René Barjavel. Un pommier de Normandie au printemps se fait l'amour par 100 000 fleurs.
Merci Alain Baraton.